À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain? C'est la chronique de Laurent Collen.
Mais quel est-il donc ce fameux modèle managérial qui serait supérieur aux autres et qui générerait à coup sûr le succès? Mais quelle est-elle donc la meilleure manière de procéder pour espérer obtenir le meilleur rendement d'un salarié? Ici, il n'est pas question de bonheur ou de réussite personnelle, il est juste question d'investissement. L'homme au travail est une source de valeur, mais la charge financière n'est pas anodine. Les charges de personnel sont lourdes. Alors il ne faut pas se tromper. Le salarié mérite le plus grand soin. Après l'avoir chassé, il faudra l'élever, le faire grandir. Il faudra viser son épanouissement et son accomplissement. C'est la raison pour laquelle on loue souvent la bienveillance. Certains disent qu'elle donnerait de bons résultats, mais tout le monde n'est pas d'accord. On dit aussi beaucoup de bien, par ailleurs, de la compétition, c'est-à-dire de la mise en concurrence permanente, de l'émulation. Alors qu'en est-il? Existe-t-il une voie plus performante, plus royale que les autres dans ce domaine? On peut réfléchir, élever des théories, nourrir des combats, mais dans le monde entrepreneurial, on aime peu se gargariser de grands principes généraux et culturels. Même si on s'en nourrit, on préfère les faits. Là aussi, on aime observer le réel en élaborant des méthodologies d'écoute et d'analyse rusées. Et sur cette grande question, il fallait la plus grande des entreprises, à savoir Google. Il y a quelques années déjà, Google avait observé pendant de longs mois de nombreuses équipes travailler. Elles guettaient leur performance, mais aussi leur mode de fonctionnement. L'enjeu était de savoir ce qui pouvait bien distinguer une équipe efficace d'une équipe non efficace. Une grosse étude à la taille de Google pour une sacrée bonne question. Des statisticiens, des chercheurs, des sociologues, des psychologues organisationnels et des ingénieurs ont observé à la loupe des centaines de groupes de travail. Cette étude avait duré une année entière. Tout avait été passé au crible. Résultat ? Chou blanc. Pas la moindre corrélation statistique. Alors on a approfondi autrement et on a fini par trouver l'ingrédient du succès. Alors quel est-il ? Rien d'autre que la gentillesse. Tout simplement la gentillesse. C'est juste l'idée que les gens qui se sentent à l'aise s'expriment sans crainte et peuvent prendre des risques. Pas nouveau en apparence, mais pourtant semble-t-il méconnu. Être gentil, ce n'est pas être faible, contrairement à ce que l'on pourrait croire. La gentillesse est au contraire une forme de noblesse dans le travail. Ce qui est important, ce n'est pas d'être gentil tout le temps, béatement, mais plutôt de faire savoir qu'on peut l'être. Même au royaume de Google, les salariés aussi intelligents et puissants soient-ils, ont besoin d'un environnement psychologique sûr pour faire exploser leurs talents. D'autres facteurs explicatifs étaient apparus également, comme la clarté des attentes, la fiabilité des collègues, le sens de son travail. Mais cette idée d'assurance, gentillesse, prédominait sans conteste. Elle était le fondement de toutes les autres notions. Sans gentillesse, point de salut. Si l'on approfondit le sujet de la simple gentillesse, on comprend qu'on est face à une dimension émotionnelle puissante, qu'on ferait mieux d'ailleurs de nommer par le terme de sécurité psychologique. En sécurité, on ose. En risque, on ose moins. Donc on se contraint. On est dans l'eau tiède. Et les grands succès ne sont jamais nés dans l'eau tiède, mais plutôt dans des torrents bruyants. La sécurité psychologique est donc bien un climat, propice non pas au bonheur mais à la sérénité. Et la sérénité aurait de merveilleux atouts comme celui de porter la graine de la paix, du calme. La sécurité psychologique est donc un merveilleux terreau pour faire grandir sainement le salarié. On y est à l'aise. En sécurité, on n'a pas peur de parler, de s'exprimer, de partager son point de vue, sa vision, même si les raisonnements n'en sont qu'à leur ébauche, même si on est envahi encore de questionnements, de préoccupations. Parler, c'est commencer à solutionner. On ne le sait que trop. Mais on sait aussi à quel point on se réfrène. Souvent, on n'ose pas s'exprimer car on a peur d'être jugé. Tiens, il ne sait pas lui, hein, il n'a pas lu le dossier. Ah ben moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Ah, ce n'est pas ce que pense le patron. On n'est jamais sûr de faire mouche. Et dans le même temps, on craint la réaction et l'opinion des autres. On craint l'impact sur son image personnelle. Cette notion est tellement importante dans l'entreprise d'aujourd'hui. Tout le monde se markete, tout le monde se manage et on fait bien. Car c'est un vecteur réel de réussite personnelle. Donc, si le salarié y gagne, c'est l'entreprise qui y perd, car plus personne n'ose. Et si personne n'ose, alors c'est la pensée du plus fort, souvent le plus haut gradé, qui l'emporte, au lieu que ce soit la pensée porteuse du germe du succès, quelle qu'en soit la source. Et c'est alors le règne de la pensée unique et du langage normé. On ne se confronte plus, on se réconforte, on se rassure, mais on ne sort pas des clous. La pensée collective y perd et le talent individuel n'éclot pas. Alors là encore, il faudra apprendre à désapprendre. Arrêtons de s'interdire de critiquer des décisions prises. Intervenons même si toutes les preuves ne sont pas encore disponibles. Opposons-nous aux idées du patron s'il y a lieu, car il ne demande que ça. Si on ne crée pas ainsi les conditions de la libre expression en entreprise, alors le risque demeurera que l'idée attendue ne jaillisse pas. Et si jamais cette idée-là était une vérité nouvelle, capable de changer la face de la compagnie, alors les managers n'auraient plus que leurs yeux pour pleurer. Freiner la parole libre, c'est donc inviter à se taire. Et se taire est nuisible à la performance de l'entreprise, quoi qu'on en dise. On risque d'enterrer tout simplement l'initiative. Le comportement des dirigeants dans ce domaine joue un rôle clé, on le sait, hein, rien nous fait taire. Mais notez bien que l'inverse est vrai aussi. Installer un climat de sécurité psychologique au travail pourrait bien se révéler être un investissement bénéfique. Cela ne coûte rien de tester. Parler librement, oser donc, c'est très bien. Mais oser, c'est accepter de fait de prendre le risque de se tromper. Donc, on prendra ce risque uniquement si on sait que cela sera sans conséquence. Travailler dans un environnement de travail psychologiquement sûr, c'est savoir que si l'on se trompe, on ne sera pas jugé sévèrement. Donc ici, nous sommes bien sur la problématique du droit à l'erreur. Si faire une erreur, c'est subir des remontrances ou générer des représailles, alors on ne tentera rien. Et pire encore, si on fait une erreur, on la cachera. Et ça, c'est un cercle infernal. Car l'erreur est une expérience dont il faut tirer à tout prix les conséquences. On apprend aussi de ses erreurs. Ne pas faire d'erreur, c'est ne pas avoir osé. Ne pas oser, c'est ne jamais rien faire de nouveau. C'est donc être hors de ce 21e siècle mouvant. Pour réussir, il faut oser. Pour oser, il faut être sûr de ne pas être cloué au pilori en cas d'échec. La sécurité psychologique est donc bien une source essentielle de création de valeur dans les entreprises. Plus les environnements sont complexes et changeants, plus c'est vrai. Notez qu'on trouvera encore des managers qui croient au pouvoir de la peur pour faire avancer. C'est une erreur. La peur empêche la collaboration. La peur consomme et détourne toutes les ressources psychologiques des individus. Ce sont les neuroscientifiques qui le disent. En conséquence de quoi, les entreprises ont tout intérêt à installer une culture de la tolérance, sans se départir évidemment de l'exigence maison. Pour innover, il faut donc oser, et pour oser, il ne faut pas être en danger. C'est simple, mais parfois nouveau et même douloureux encore pour certains secteurs. Car en vrai, l'erreur fait grandir. Pour y croire, il suffira de se dire que même si l'erreur a été individuelle, elle devra toujours être perçue comme collective. Ainsi, on réfléchira sur sa survenance et on en sortira plus fort, et pourquoi pas immunisé pour un temps. C'est en cela que l'erreur doit unir les hommes et non pas les diviser. En résumé, pour affronter la jungle, les salariés devront être forts. Pour les rendre forts, plutôt que de les forcer à multiplier les combats dans les salles d'armes, il vaudra mieux les nourrir et leur apporter la sécurité psychologique qui, elle, fait oser. Ils seront plus sereins, plus riches, plus épanouis et concentreront leur attention sur le combat plutôt que sur leur propre ligne. Ils seront en confiance, en paix, et c'est avec cet état d'esprit-là qu'on déplacera les montagnes. Thank you.